9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, à votre santé. Alors, par certains sur ce plateau ce matin faisaient des SMR, on verra ce que c'est. Walid est avec nous. Comment ça va, Walid? Hello,
ça
my
va
friend.
Très, très bien, my friend. Et vous, comment allez-vous?
Ça va bien. Ça fait plaisir de vous voir. Enfin, presque plaisir. Fondateur de Kevlar Diet. Kevlar avec deux A. Exactement. C'est quoi MSR?
SMR? La SMR, c'était les petits bruits qu'on va retrouver dans le micro, peut-être comme ça un peu. C'était en vogue sur TikTok, sur les
Je comprends que ça m'ait échappé.
Vous n'avez pas raté grand-chose.
Donc, champion de France de force athlétique, vous avez accompagné de nombreux athlètes dans leur préparation et j'ai appris de sources généralement bien informées, Walid, pour ne pas le nommer le docteur Alouche, que vous souffriez de musophobie aggravée.
On s'était dit que pendant le repas, toutes les informations ne sortaient pas du repas.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai.
Moi, je connais le docteur Alouche, il n'est pas du genre à inventer des choses. Et à quoi ça sert d'avoir autant de muscles et d'être musophobe?
C'est le talon d'Achille. Chaque athlète, chaque sportif, chaque héros a son talon d'Achille.
Ouais. La musophobie, pour tout le monde, c'est...
C'est la peur des souris, des rongeurs, des... J'aime pas tout ça, de les araignées.
D'accord. Et souris d'agneau, t'as peur?
Non, souris d'agneau, c'est très bon.
Ah oui.
Je suis content qu'il y en a à ma table.
Bien, heureusement, vous avez l'arme imparable, Walid.
Ah oui, le chat.
Le chat.
Ah oui, un chat. Et après, il transforme ta souris en souris d'agneau.
D'accord. Bon, où est-ce qu'il en reste? Comment il s'appelle votre chat?
Poulette.
Vous êtes comment?
Poulette.
Poulette.
Ah, mais j'ai compris poulette.
Ouais. Non, poulette.
Poulette.
Ah, poulette. Ouais, c'est un bengal. Super agité.
Il
super,
va loin dans le...
Super câlin.
Dans le concept.
Bah, voilà.
Pourrais lui prendre un. Ça chasse les chats. Et pas que, hein.
Bien, vous êtes nutritionniste et vous avez fondé Kevlar Diet. Vous proposez plusieurs programmes, dont un qui est consacré au mois du Ramadan. Exactement. Alors, un prix vraiment symbolique. Hein.
Ouais, symbolique, 10 euros, pour vraiment essayer de profiter de ce mois-là, essayer de faire ce mois qui, malheureusement, est un mois de consommation, plutôt un mois de la modération, pour pouvoir en profiter, pour ne pas être fatigué, pour ne pas avoir de remontée acide, pour ne pas avoir de maux de ventre, pour ne pas prendre du poids aussi, et au final, améliorer sa santé et pouvoir profiter pleinement de ce mois-là. C'est un prix symbolique de 10 euros. Il y a une partie qui est redistribuée pour les nécessiteux. Donc l'année dernière, avec une association, on a construit deux puits. Et puis après, il y a eu aussi 1500 euros qui a été redistribué à une association purement alimentaire. Donc le but du jeu, c'est d'allier un petit peu l'utile à l'agréable. Mmh. Passer un bon mois de Ramadan avec un prix symbolique de 10 euros, dont une partie est redistribuée pour les nécessiteux.
Voilà, et à la fin du mois de Ramadan, vous venez avec les comptes et vous dites ce qu'on a fait de l'argent
c'est très important.
Du programme Ramadan.
Il y a 100% transparence. Combien a été donné à qui et l'année dernière aussi, c'était pas prévu. C'était un désir que je voulais, moi, construire des puits. Donc j'avais demandé aux personnes qui avaient pris le programme Ramadan, est-ce que ça vous dirait de construire des puits? Et les puits vont être construits.
Vous êtes un spécialiste de la lecture des étiquettes alimentaires et nous allons nous intéresser ce matin aux produits qui trustent les tables du mois du Ramadan. C'est pour ça que nous avons invité Karim de la boucherie Les Jumeaux au Lila. Bonjour Karim.
Bonjour à vous.
Bonjour parce qu'une des stars du mois de Ramadan, ou même la star du mois de Ramadan, c'est la viande hachée. Mais avant elle, la star du mois de Ramadan, c'est le concentré de tomates. Alors, je ne sais pas ce que ça représente en termes de consommation pour les producteurs de concentré de tomates, mais c'est incroyable.
C'est incroyable. Quasiment tout dans ce type de préparation sera fait avec du concentré de tomates. Et malheureusement, pour le concentré de tomates, c'est l'origine qui est un petit peu floue. Sauf que les études, elles ont montré que la majorité de l'importation et de la production, ça vient de Chine. Dans des conditions où on ne sait pas réellement si c'est bien, pas bien, traité, OGM, etc. Et puis aussi les conditions des personnes qui vont récolter ces concentrés de tomates. Et on a vu aussi que, sans citer les grandes marques, la majorité des sauces tomates, sauf celles qui disent voilà 100% italienne, qui vient de tel endroit, utilisent ces concentrés de tomates qui viennent de Chine, où on peut se poser des questions sur la qualité. Non pas de dire les Chinois, non, c'est pas... Non, c'est tout simplement que les études ont montré que ces concentrés de tomates qui venaient de Chine n'étaient pas d'une super bonne qualité et pouvaient avoir des effets néfastes sur la santé.
Alors c'est vrai que pendant le mois du Ramadan, c'est la haute saison du concentré de tomates. Ouais, il y en a beaucoup, notamment dans les soupes. Hein.
Ouais, partout.
Dans la shorba.
Partout, dans les soupes, dans la shorba, dans tous les plats qu'on veut un petit peu relever. Et en plus, c'est bourré de sel, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et au lieu d'acheter du concentré de tomates, pourquoi pas se poser la question si on a le temps de faire soi-même sa sauce tomate, mais pourquoi pas tout simplement prendre de la pulpe de tomate pure? Ça coûte pas forcément plus cher, mais on se dit, si, ça coûte plus cher, le concentré de tomate, c'est moins cher, mais parce qu'il est déshydraté. Et donc, si on va la réhydrater, c'est exactement la même chose en termes de quantité et en termes de prix. Prendre de la sauce tomate 100% tomate, tout simplement, et éviter les concentrés de tomate.
Par quoi vous remplacez alors techniquement en gros?
Par de la sauce tomate pure. Pas les sauces tomates type arrabbiata, etc., mais de la pulpe de tomate, par exemple, où c'est marqué 100% tomate et il n'y a pas de concentré de tomate.
Et là, on est sûr que dans ce produit-là, il n'y a rien de problématique pour la santé.
Bah, il faut regarder la liste des ingrédients. Si c'est marqué 100% tomate, on est bon. Par contre, si on a sauce tomate, concentré, amidon de maïs modifié, etc., là, ça va être un petit peu plus différent. S'orienter vers les produits purs, et il y en a de marques de distributeurs, il y en a de marques italiennes, il y en a de pour tout le monde, il y en a des 3 euros le kilo, il y en a jusqu'à 15 euros le kilo, mais 100% en tomates, de préférence bio, on est bien. On est très bien.
Bah, de toute façon, les mamans, elles se posaient pas la question. Enfin, dire que c'était la fameuse petite boîte en fer concentré de tomates. Allez, vas-y.
On a grandi avec ça. Mais malheureusement, c'est pas parce que on a grandi avec ça et qu'on avait l'habitude de manger ça que c'est une bonne chose. On peut parler aussi des cubes bouillons déshydratés. On a grandi avec ça. Les cuisines comme ça, ça relève les plats, etc. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, ces cubes, ces bouillons, déjà majoritairement c'est du sel. Il y a entre 50 et 60% de sel. Ça coûte entre 10 et 15 euros le kilo. Ce qui fait c'est très cher. C'est super cher. Ça veut dire qu'on achète un kilo de sel 7 euros. Alors que normalement, un kilo de sel, ça coûte à peu près un euro, vu la qualité en plus du sel.
Ouais, mais si tu mets pas le cube, il n'y a pas le goût.
Il n'y a pas le goût, mais c'est normal. On va retrouver énormément d'additifs. J'ai pris en plus des notes, parce que là, je me suis dit, je peux pas la prendre par cœur. On va prendre, par exemple, cube de bouillon, sel, exhausteur de goût, glutamate de sodium.
Ah, le fameux, ouais.
Glutamate de sodium, ça va créer ce que l'on appelle, c'est vraiment pas raciste, hein, mais c'est comme ça, le syndrome du restaurant chinois. Pourquoi ? Parce que dedans, ils utilisent énormément de glutamate de sodium.
C'est quoi le syndrome du restaurant chinois ?
C'est avoir des bouffées de chaleur, avoir des nausées, avoir des sensations d'étouffement. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est du glutamate de sodium qui est énormément utilisé dans ce type de restauration. Pourquoi est-ce que lorsqu'on va dans un... C'est vraiment... mea culpa, my friend. Quand on va dans un resto chinois, à volonté, les wok, tous les aliments ont le même goût. Je mange des crevettes, ça a le même goût que le riz, que le canard, que le... Ça a exactement le glutamate de sodium.
Tu manges du canard dans un restaurant?
Non.
Alors là, Starfoula, parce que le canard n'est pas halal dans les restaurants chinois.
Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas dû mettre les pieds là-bas. Avant, oui, bien sûr, on allait. Mais tout a le même goût. À cause de quoi?
Les trucs à volonté, faut éviter.
Bah oui, comment est-ce que tout a le même goût? Tu manges du flan.
Les gens aiment trop ça, et vous allez le voir.
Malheureusement,
pendant le mois du Ramadan,
bien sûr,
ça cartonne.
Mais bien sûr, mais glutamate de sodium, alors qu'on sait que c'est mauvais. Amidon de maïs, graisse végétale de palme, sachant que si c'est hydrogéné, c'est pas obligé de le mettre. On a du sucre, on a de la carotte, farine de soja, protéines de maïs, soja hydrolysé, poulet, 1,1%.
Et là, on parle de bouillon de poulet. Hein.
On parle de bouillon de poulet. Ouais. Dedans, on va retrouver des épices, des herbes, des ail, des oignons, des arômes avec œufs, céleri et vitamine A. Mais il y a très 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 peu d'extraits de poulet, mais c'est majoritairement du sel, du glutamate de sodium. Son job, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que ça va multiplier les saveurs qu'on va retrouver dans nos palettes. Donc c'est normal de se dire, ah mais si j'en mets pas, j'ai pas de goût. Mais c'est un goût artificiel qu'on va retrouver.
C'est le goût qu'on connaît.
Mais oui,
ça a pas le goût qu'on connaît.
Ouais. Voilà, ça a pas le goût qu'on connaît, mais c'est pas naturel, c'est pas bon pour la santé, et c'est pas parce qu'on a eu cet héritage-là qu'il faut continuer dans ça. On peut très bien faire nous-mêmes nos plats sans cube bouillon déshydraté.
On peut aussi les faire à la maison.
On peut les faire à la maison, bien
évidemment. Après, le problème, Philippe, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils préfèrent perdre leur temps sur TikTok, ils préfèrent perdre leur temps sur d'autres choses, mais ils veulent pas prendre leur temps de passer du temps à la cuisine, faire les courts bouillons eux-mêmes, parce que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher à faire, et en plus, ça se congèle.
Est-ce qu'il y a des alternatives, on va dire, qui se vendent, qui sont bonnes pour la santé, enfin en tout cas qui seraient pas mauvaises pour la santé?
Alors il y a des alternatives.
Il y a des bio.
On peut se tourner vers le bio, mais attention, parce que c'est des petits malins. Ils vont dire en vrai, ce qui va poser problème, ça va être le sel, la quantité de sel. Mais on n'y peut rien, parce que de toute façon, c'est un produit qui est très salé. Mais ce qui va réellement poser problème, ça va être les additifs, notamment le glutamate de sodium. Si on regarde dans la liste d'ingrédients qu'il n'y a pas d'additifs, etc., blabla, c'est très bien. C'est marqué en gros sans glutamate de sodium. Ça, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que les industriels, ils font du ski, ils arrivent à esquiver tout ça. Donc lorsque l'on va retrouver exactement, et j'ai la liste, extrait de levure, levure hydrolysée, levure autolysée, extrait de soja, isolate de protéines, ça va se comporter exactement de la même manière que du glutamate de sodium. Ça veut dire que l'industriel va pouvoir mettre sans glutamate de sodium, sauf qu'on va retrouver exactement les mêmes effets néfastes que le glutamate de sodium et les mêmes effets positifs de exhausteur de goût. Mmh. Donc c'est très difficile de trouver un cube bouillon déshydraté, etc., de bonne qualité dans le commerce. Alors après, on va en trouver, mais ça va être du 35 euros le kilo, c'est extrêmement cher.
Je vous ai demandé de plancher. Alors, autre star du mois de Ramadan, la brique. Et dans la brique, très important, la fameuse pâte fromagère.
Ah, la tostinette.
Donc, je vous interdis de parler du curry. Tout est bon dans le curry.
Alors, le curry, vache curry, c'est pas si mauvais que ça. C'est très gras par rapport à un fromage. Ça apporte peu de protéines. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas forcément le meilleur. Manger un fromage entre guillemets classique, c'est mieux, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus mauvais. Par contre, ce qu'on va retrouver également aussi dans la tostinette, qu'on met dans la brique, c'est ce qu'on va appeler des sels de fonte. Donc c'est des additifs pour faire en sorte que la pâte soit assez homogène, il y a assez de protéines, etc. Donc c'est moins cher, on trouve ça à peu près à 5 euros le kilo, tandis que du fromage c'est à peu près 10 euros le kilo. J'ai pas envie d'être trop strict ou trop dur en disant non, il faut pas en prendre. On peut en consommer. Peut-être pas tous les jours, ça dépanne bien, mais il faut garder en tête que c'est pas du vrai fromage.
La tostinette, quoi.
La tostinette, exactement, oui. Le petit fromage qui.
C'est. Oui, ça fait bien le bruit, hein.
T'as vu ?
Ah ouais, moi je découvre que ce fromage-là, mais c'est intéressant.
C'est un mélange de fromage, et quand on va voir en gros cheddar, machin, etc., dont 25% de cheddar. Donc on croit acheter du cheddar, mais c'est pas du cheddar. C'est comme les saucissons de cachir au bœuf. On retourne l'étiquette, il n'y a pas de bœuf dedans, ou c'est poulet, machin.
On parle de la charcuterie, tout là, mais en restant sur les préparations fromagères, donc la tostinette, c'est.
Franchement, je vais dire, c'est occasionnellement.
Que les enfants aiment bien d'ailleurs.
Ouais,
hein, adorent.
Oui. Ah bah, bien évidemment, c'est un truc assez marrant, en plus ça fond bien, c'est élastique. Pourquoi c'est élastique? Bah, ça va être la qualité du fromage qu'on va retrouver dedans, et ça va être les additifs qu'on va retrouver dedans aussi. Alors après, ouais, bien évidemment, par exemple, la vache qui rit propose maintenant des gammes qui sont un peu mieux, où il y a moins d'additifs, mais on va retrouver toujours les sels de fonte. Pourquoi ? Parce que il y a la
en tostinette, vous voulez dire ?
En tostinette, ouais, clairement. Ouais. Parce que on a ce, il faut que les protéines et les lipides, ils soient bien homogènes. Parce qu'on va pas retrouver, c'est comme si on avait une tostinette, un carré, et puis dans un coin, il y a tout le fromage, tout le machin, et dans l'autre coin, il y a plus rien. Il faut que ça soit homogène, il faut que ça soit beau. Pareil pour la couleur, le vrai cheddar. Tu sais de quelle couleur il est
le vrai cheddar, il est pas orange, il est je crois comme un peu beige, tu vois.
Exactement, un peu, il est très clair.
Ouais.
Mais sauf que le cheddar pour nous, non, c'est jaune, c'est orange.
C'est des colorants qu'ils mettent.
Exactement.
Ah oui, mais pour moi le cheddar, ça avait la couleur de ce qu'on mangeait au McDo, enfin sur le cheeseburger.
Orange,
absolument
pas du tout.
Non,
le vrai cheddar, c'est pas ça. En plus, il est assez dur, hein.
Ouais. C'est assez dur, ça s'effrite un peu, enfin c'est très différent de ce que l'on a l'habitude de consommer.
Bien, on fait les courses du Ramadan avec Kevlar Diète et Karine des Jumeaux jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, mois de Ramadan, du mois de la consommation au mois de la modération. On lit les étiquettes des produits stars du Ramadan ce matin avec Kevlar Diète. Kevlar Diète. Et Karine des Jumeaux, ça c'est beaucoup plus facile.
Ouais,
Boucher,
c'est plus facile.
Au lila. C'est la haute saison également pour la viande hachée. Alors la viande hachée, on n'en mange jamais autant que pendant le mois de Ramadan. On en met partout de la viande hachée.
C'est incroyable. La consommation de viande hachée, elle explose.
Ouais, elle explose grave.
Tu pourras en témoigner. Hein.
Bah oui.
Tous les plats sont faits avec. On veut faire des briques, des nems, enfin tout.
Du hachis.
Du hachis, des burgers, des gratins, tout. Ouais, des boulettes, ouais. Tout. Et malheureusement, il y a la viande hachée qu'on peut retrouver chez son boucher qui est de bonne qualité, si son boucher est de bonne qualité, et la viande hachée qu'on va retrouver dans les supermarchés. Et là, dans ce cas-là, il faut faire attention aux arnaques des industriels, tout simplement.
D'accord. Quelle est la législation en termes de viande hachée ?
Alors, pour ce qui est de la viande hachée et des steaks hachés, si un produit s'appelle steak haché, c'est que c'est majoritairement de la viande dedans. Par contre, tous les types, et on peut le voir, burger à l'oignon, le burger, le machin, c'est que c'est pas 100% viande. On va retrouver dedans, et j'ai pris la liste, parce que j'ai pas appris par cœur ce genre de choses. Viande bovine, par exemple, si on prend un produit qu'on trouve vraiment partout, sans citer de marque, à 11 euros le kilo, on se dit 11 euros le kilo, ça va,
c'est correct.
11 euros le kilo, c'est correct. Viande bovine hachée halal, 40%. Donc il y a seulement 40% de viande. Donc il y a plus de la moitié, c'est autre chose. Protéines végétales de soja réhydratées, 24%. On va avoir de l'eau, on va avoir trouvé du gras bovin, donc on ajoute du gras supplémentaire, plus, ouais. Alors que la viande, normalement, elle est déjà un petit peu grasse. On va retrouver du lactose, des sels, du sel, pardon, des fibres de blé, des protéines de lait, parce que des produits laitiers, vont faire dans un... il n'y a pas de produits laitiers, non. Des plantes aromatiques, de la chapelure, du gluten, des arômes, du lactose, du céleri, de la poudre de jus de betterave, des épices et du lactose, encore une fois.
Et ça, ça ressemble à un steak haché, donc.
C'est la composition moyenne de tous les burgers qu'on va retrouver dans nos supermarchés. Et le problème, c'est quoi? C'est que, déjà d'une, on va se retrouver avec des produits où il y a plus de gras que de protéines. Ça n'existe pas normalement. Le steak haché, c'est pas ça. La viande avec laquelle on fait du steak haché, c'est pas ça.
Mais c'est récent, ça. Hein. Avant, il y a plusieurs années, ça n'existait pas.
Ça n'existait pas, ça.
C'est énorme. Franchement, c'est devenu n'importe quoi. Moi, si j'ai un conseil à donner, arrêtez vos conneries avec acheter vos steaks hachés, en fait, déjà prêts. Vous achetez chez le boucher et vous choisissez la viande que vous voulez hacher.
Ouais, bien
tout,
sûr, bien sûr. Tout. Ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas.
C'est ça qu'il faut faire, c'est tout.
Et moi, j'ai appris, parce que je prends aussi je me fais mes steaks hachés, la viande hachée, avec peu de gras, et je demande du rond de gîte.
Okay.
Et donc, c'est très peu gras, ou bien avec d'autres trucs, ou par exemple, demander du beefsteak haché.
Ouais,
comme ça, c'est moins gras, parce que la viande.
Mais pas haché, ça veut dire que vous le hachez vous-même.
Non, je demande au boucher de l'hacher.
C'est ton boucher qui l'hache pour toi.
Le
rond de gîte, c'est un morceau qui lâche beaucoup d'eau, je trouve. Je te conseille pas le rond de gîte, c'est fade. Le rond de gîte, c'est plus pour faire du carpaccio.
C'est vrai.
Comme ça. Il y a des bouchers qui font des beefsteaks avec. Pour moi, le rond de gîte, c'est le carpaccio.
Moi, j'aime bien avec des bons assaisonnements, du paprika.
Je vais te donner quelques morceaux. Je pense que tu vas.
Si vous êtes là, Karim, parce que, vous êtes le spécialiste mondial de la viande hachée, mais que, Walid, vous dites que la viande hachée, il faut l'acheter chez le boucher.
Ça dépanne. En supermarché, ça dépanne, mais c'est ultra cher. Si on veut un steak haché de bonne qualité, 100% viande, avec moins de 15% de matière grasse, on est sur du 19 euros le kilo. 19 euros le kilo, on a une très bonne viande en boucherie. Alors que là, c'est pas forcément une très bonne viande. C'est super cher pour ce que l'on achète. Ouais. C'est mieux d'aller dans une bonne boucherie, de demander à son boucher une bonne pièce de viande qui nous la hache, qu'on lui dise aussi, parce qu'il y a cet échange-là, c'est artisanal, c'est un savoir-faire. La dernière fois, quand j'étais venu, je vais plutôt cuisiner comme ça mon plat, plutôt je te conseille ça, ou plutôt non, tu devrais prendre telle pièce. Et puis il y a tout ce conseil-là, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, supermarché, ça dépanne, c'est extrêmement cher, 19 euros le kilo, c'est très très cher pour ce que c'est.
C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est moins cher.
Oui, parce que là, le conditionnement, il est fait. On retrouve jamais des boîtes de 1 kilo. On trouve des boîtes de 600
grammes. Le consommateur, malheureusement, il faut qu'il se réveille plus qu'avant. En fait, malheureusement, c'est au consommateur aujourd'hui de... Parce qu'on se fait arnaquer dans tous les sens, en fait. Tu vois, donc du coup, c'est au consommateur de se réveiller, d'apprendre, d'aller vers l'information, de chercher à comprendre le pourquoi du comment et de réfléchir un peu plus sérieusement. Voilà, il faut acheter la viande chez le boucher. Mais c'est pas parce que tu achètes la viande chez le boucher qu'elle va être bonne.
Bien sûr.
Acheter la viande chez le boucher.
Bien sûr.
Moi, je suis là. Je suis dans cette émission-là. Je suis très content que vous m'ayez invité. Je peux vous donner quelques conseils.
Ah bon?
Ah ouais.
Alors là, heureusement que vous êtes venu. Déjà, quelle viande à hacher?
Alors, faut savoir, est-ce qu'on aime la viande à hacher qui est grasse ou pas grasse?
Moi, je pense qu'il faut un peu gras parce que sinon, c'est sec. Mais bon, ça, c'est moi.
Alors, dans la psychologie des gens, maintenant, les gens préfèrent des viandes hachées beaucoup plus maigres. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je vais manger des frites, je vais manger ça. Alors, si je fais ça, plus en plus je mets du gras dans la viande hachée, c'est trop. Alors qu'il faut, je pense, un peu plus de gras dans la viande hachée. Mais bon, après, si le client il veut du gras, qu'il prenne par exemple de la basse-côte. Basse-côte, c'est incroyable. Hein. À hacher, c'est incroyable. S'il veut de la viande hachée qui est pas grasse du tout, il peut demander des morceaux de beefsteak qui sont pas gras ou des morceaux qui sont pas très gras. Il faut que chaque client regarde visuellement la viande hachée. Il faut impérativement que le boucher lave ses mains avant. D'accord. Alors arrêtez avec vos histoires de gants, ça me saoule. Depuis le corona, là, tout le monde veut porter des gants. Alors les gants, c'est bien quand le boucher il s'est coupé. Quand il a des micro-fissures sur les mains,
mais
c'est
pourquoi
important.
Ça sert à rien, Karim,
les gants, parce que en fait, ok, moi je vais porter des gants, mais le client il sait pas. Ça se trouve, je les ai depuis hier, les gants. Ça se trouve, ça fait 4 heures. Ça se trouve, j'ai touché une poubelle, je me suis essuyé le nez. Je sais pas comment.
C'est vrai que c'est un bon repère, moi. C'est très rare maintenant, mais quand je dois aller dans une boucherie pour me dépanner, si je vois que le boucher il va hacher son truc, il va toucher sa viande, ensuite il touche mon argent.
Là, c'est pas bon. Non, moi je lave. Je t'explique. En fait, moi je lave mes mains dans plusieurs cas. Le premier cas, quand le client il veut de la viande hachée, automatiquement, je lave mes mains avant. D'accord, parce que j'ai pu toucher une autre ADN, je peux créer des contaminations croisées. Par exemple, j'aurais pu faire une escalope de poulet et après je vais laver mes mains. Je vais pas laver mes mains, je vais la viande hachée tout de suite. Le client il tombe malade. Pourquoi? En fait, par exemple, quand je vais couper une escalope de poulet, nous par exemple les poulets qu'on fait, on fait la découpe nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des poulets entiers et on fait la découpe nous-mêmes. On n'achète pas les cartons de cuisses de poulet, etc. Du coup, le problème, c'est que le coffre de la volaille, elle contient des matières fécales animales, en fait. D'accord? Donc, moi, je vais toucher ça. Ensuite, je vais pas laver mes mains, je vais faire la viande hachée. Le client, il peut tomber malade.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important.
Alors, on répétera jamais assez, la viande hachée, c'est fragile. C'est très fragile. On la congèle ou on la congène pas? On va chez son boucher, on achète de la viande hachée. Congelable ou pas?
Alors, si vous voulez congeler la viande hachée, pas de souci. On la congèle le jour même, premièrement. Quand on va chez le boucher, on prend un sac isotherme. C'est pas... en fait, le boucher, il est sérieux. On va dire qu'il est sérieux, votre boucher. Mais si vous n'êtes pas sérieux, vous prenez pas... Il fait très chaud dehors. Vous prenez pas de sac isotherme. Vous partez comme ça, vous pouvez tomber malade à cause de vous, en fait. Donc, pour congeler, soit vous congelez dans les sacs...
Zip
pour la congélation, soit dans les sacs sous vide, soit ben, nous les sacs qu'on a, ils sont adaptés pour la congélation. Donc il faut congeler en petite quantité, d'accord, trouver le moyen d'enlever le maximum d'air.
Et on la laisse combien de temps au congélateur?
Alors donc moi ce que je conseille, Philippe, c'est de mettre un petit peu de sel et du poivre, de mélanger un petit peu, et ensuite on peut congeler la viande. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah oui, mais quand tu mets au congélateur, les bactéries, elles stoppent. Alors, elles ne stoppent pas vraiment les bactéries.
Ça ralentit énormément.
Elle ralentit énormément. Regarde, si les bactéries stoppent, pourquoi tu peux pas garder plus de 6 mois la viande hachée dans un congélateur?
Donc, c'est pas plus de 6 mois, c'est ça la réponse?
Ouais, pas plus de 6 mois. Pas plus de 6 mois.
On ne congèle pas et on, voilà. Donc
non, à part si ton congélateur, il est, tu sais, les joints, ils sont pas abîmés, ouais, t'as pas de givre, il est pas rempli à bloc, tu fais des paquets qui sont fins et petits, pas, tu sais, des blocs de 3 kilos, et tu mets du sel, du poivre, tu peux congeler ta viande beaucoup plus longtemps.
Comment on décongèle la viande hachée?
Uniquement au réfrigérateur. D'accord? Je veux pas que vous mettez dans le micro-ondes ou dehors à température ambiante. Je sais qu'on le fait tous. Je sais que ça fait des années, on n'est pas tombé malade, tant mieux, mais théoriquement, c'est très dangereux de faire ça. Donc, on décongèle la veille pour le lendemain au réfrigérateur.
Pourquoi la viande hachée noircit-elle?
Ça peut être la qualité de viande, d'accord? Ça peut être la qualité d'emballage du boucher. Ça veut dire que les emballages de boucher, vous savez, les trucs qu'on craft, comme on dirait, du carton, ça fragilise beaucoup la viande. Ça peut être aussi le fait que la viande n'est pas maturée. Nous, je sais qu'on laisse en moins un mois de maturation sur chaque produit qu'on vend. Le fait de maturer, l'eau, elle s'évapore. Quand on a une viande trop fraîche, il y a beaucoup d'eau encore dans la viande. Du coup, c'est pour ça. Ça noircit aussi la viande. Hein.
Oui, mais ça, c'est important. Et alors, les gens n'aiment pas quand ça noircit la viande. On la conserve combien de temps au réfrigérateur?
Théoriquement, dans la journée même, pour vous dire, c'est 4 heures. Pour les professionnels, si hache de la viande, il a droit à 4 heures avant de la consommer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de le faire rapidement, quoi. Voilà, on va dire 24 heures. Et puis après, vous ne vous cassez pas la tête, vous mettez un peu de sel, et puis vous pouvez conserver 3-4 jours.
Est-ce que vous conseillez aux gens de hacher la viande chez eux, ou en fait, le fait de l'hacher chez eux, c'est dangereux?
Non.
Parce que le hachoir est dangereux.
Non, c'est pas dangereux, quoique mon frère, tu sais qu'il a perdu quasiment presque un doigt à cause de la machine. Bon, bref.
Ça fait un très bon steak, mais...
Je vous conseille de hacher vous-même la viande. Alors, il y a deux manières de hacher. Vous pouvez, si vous êtes un peu plus patient, vous pouvez la hacher au couteau, tout simplement. Au couteau, vraiment doucement.
Genre tartare, en fait.
Ouais, comme un espèce de tartare. Mais ça passe très bien pour faire des briques, etc. Ou alors, vous avez votre petite machine à hacher que vous pouvez... nettoyer, désinfecter, enlever tout l'eau, laisser dans votre frigo pour pas que les bactéries se développent, et puis vous hachez à la dernière minute. En fait, si vous faites du dernière minute à chaque fois, la meilleure façon, je pense, c'est de le faire à la maison.
Hacher minute, comme on dit. Vous parliez tout à l'heure du cachir et des charcuteries, Walid.
C'est tout sauf de la viande. C'est tout sauf de la viande. On va retrouver. J'ai la liste encore une fois.
Moi, je me bats pour ça. Hein. Parce que moi, tu sais, je fais de la charcuterie, mais sans additifs.
Ah oui.
Sans ajout de sel nitrité. Mais les gens, ils s'en foutent.
Non, ils s'en fichent, bien sûr.
C'est quoi? Combien ça coûte? Ouais, c'est tout, c'est quoi?
Parce que ce qu'on va retrouver dans le commerce, c'est quoi? C'est 5 euros à peu près le kilo. Mais
le,
5 euros.
Le cachir?
Ouais.
Non, des fois, c'est plus.
Non, j'ai noté.
C'est du chir.
Ah ouais? Je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu genre une presque 18 euros le kilo. Du jambon de poulet. Alors moi, je vends du jambon de poulet. Ouais. Alors le poulet, il est pas élevé dans des enclos. Je sais pas.
D'ailleurs, il y avait un super reportage avec Stommy Bugsy où il avait fait un reportage avec les poulets, mais ils étaient dans des batteries, dans des machins. Ils se faisaient caca dessus. Mais même après, c'est à se poser la question. Et je parle aussi des œufs, les catégories des œufs, catégorie 0, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Catégorie 3, c'est l'isolement pour les poules. Elles voient pas la lumière du jour. Elles sont dans des cages. Elles font caca dessus. Elles se mangent. Et c'est à se poser la question aussi. C'est une vraie question. Est-ce que les œufs de catégorie 3 sont halal?
Les gens, ils veulent le prix.
C'est une très bonne question. Oui, bien évidemment. Mais c'est une bonne question de se poser.
Moi, je me fais démonter sur les réseaux parce que c'est.
Oui.
Mais ils se rendent pas compte du travail. Il y a pas de nitrite.
Oui.
Le poulet.
Ceci dit, Karim, parfois. Vous êtes un chouïa cher.
Mais en quoi?
Un chouïa cher.
Mais en quoi?
Quand même. Non, mais moi, je pense que pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, il faut laisser passer une page de publicité et on parle des courses du mois de Ramadan.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on va beaucoup vous le répéter cette année, un mois de Ramadan, de la consommation à la modération. Et de toute façon, tout a tellement augmenté que de toute façon, vous serez bien obligé de vous modérer.
Ouais,
Walid Kevlar est avec nous. Et puis Karim Boucher de la boucherie Les Jumeaux au Lila. On parlait de la charcuterie. Alors évidemment, sur la charcuterie, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On retrouve partout aussi la charcuterie. Vous, Karim, vous la faites, la charcuterie. Mais le gros de la charcuterie aujourd'hui qui se vend, c'est pas de la charcuterie artisanale, surtout dans le halal.
Non, c'est de l'industriel. Après, moi, je suis pas là pour dénoncer les autres.
Si, il faut. Là, on a un spécialiste de la boucherie, de la viande, il faut. C'est pas normal d'avoir des jambons de dinde, de machin, séparés mécaniquement, plein de nitrites qui sont cancérigènes, des additifs, de la maltodextrine, de la farine de blé. On retrouve n'importe quoi dedans, rempli de œufs, etc., à un prix qui est extrêmement cher. Et on mange ça toute l'année.
C'est pas normal,
c'est pas de la viande. Le jambon, il est blanc. Il est blanc. Il est rose. Qu'on va acheter. Normalement, il est pas rose. C'est gris, c'est blanc.
Ma charcuterie, elle a pas une si belle couleur que ça. Parce que je n'utilise pas de sel nitrité, parce qu'il n'y a pas d'additif. Nous, on fabrique des décoctions aromatiques sur chacun des jambons qu'on fait. C'est trop technique ce qu'on fait. En plus, c'est énormément de main-d'œuvre. C'est beaucoup de temps passé. Non, nous, on fait un truc très propre. Après, voilà, les gens, ils veulent le prix. Donc, moi, je correspond à une clientèle éthique. Vraiment, la petite miette, là, tu sais, les 1% qui veulent manger ça, etc., qui préfèrent manger moins.
Enfin, les gens, ils veulent. Attends, Karim, les gens, ils veulent le prix, mais les gens aussi, ils font en fonction de leurs moyens.
Non, mais c'est des conneries. Écoute, Philippe, moi, je dis que c'est des conneries. À l'époque de mes parents, ils mangeaient une fois par mois de la viande. D'accord. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas les moyens, j'ai pas les moyens, mais il faut que je mange ça. Frère, t'es pas obligé de manger ça. Mais arrête de te foutre de notre gueule. T'es pas obligé de manger. Tu sais, moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. D'accord. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai les moyens. Mais j'oublie pas mon passé. Tu comprends? Aujourd'hui, j'ai les moyens d'acheter de la viande de qualité, de ça. Je le fais. Mais j'aurais pas les moyens. Je te jure, je mangerai pas toute cette merde. Crois-moi, acheter des trucs de poulet, etc. J'ai les moyens. Bah, je vais acheter chez un artisan qui fait lui-même, voilà. J'ai pas les moyens, j'achète pas.
Mais
je suis pas marié avec ça.
Non, mais les gamins aujourd'hui, ils plébiscitent les nuggets de poulet.
Bien sûr.
Les cordons bleus.
Le problème, c'est pas de dire j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens. Le problème, c'est que si on regarde un caddie moyen, la part du budget pour les courses. Le budget, il a pas trop bougé. C'est à peu près le même. Mais le problème, c'est que les prix ont augmenté et qu'on achète très cher des produits qui ne valent pas normalement très cher. Et quand on retrouve, parce qu'encore une fois, l'exemple du steak haché, c'est à peu près 12 euros le kilo. Un mauvais steak haché, un mauvais burger. Mais il y a que la moitié de viande. C'est-à-dire qu'on n'achète pas 12 euros le kilo. En réalité, on achète ça à 24 euros le kilo. 24 euros le kilo, on va chez le boucher, on peut trouver une très bonne viande. Et en fait, le problème, c'est pas de dire j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens, oui, bien évidemment. Mais malheureusement, il y a des familles qui n'ont pas les moyens et qui achètent des produits qui sont très chers quand on compare au prix au kilo.
Alors, on avance sur les stars du mois de Ramadan. Les dates, il n'y a pas de problème sur les dates.
Alors, les dates, c'est très bon. C'est l'un des meilleurs fruits. Bourré d'antioxydants, de minéraux, c'est vraiment c'est un concentré de bonnes choses. Par contre, les dates, on n'en mange pas 10, même si on dit non, c'est...
Alors, c'est impair. On peut en manger 9.
Non, bah non, c'est trop.
Une
date, ça fait quoi? On va prendre une date classique, les déglettes ou les soukaris, les trucs comme ça. On va pas prendre les grosses d'Afrique du Sud. On va prendre les classiques. Une date, c'est à peu près 10 grammes. On enlève le noyau, c'est à peu près 10 grammes. Combien de pourcentage de sucre il y a dedans, tu sais?
Non.
65%. Ça veut dire que je vais manger 9 dates.
Et c'est quoi comme sucre? C'est du fructose ou c'est
C'est un mélange. Il y a un petit peu de saccharose, mais c'est majoritairement du fructose. On va retrouver un petit peu aussi de glucose. Mais en vrai de vrai, je vais en manger 9. La date a fait en moyenne 10 grammes. Donc je vais manger 90 grammes de date. Maintenant, dans les 90 grammes, on a dit à peu près 65%. On tombe à combien? Quasiment 50, 60 grammes de sucre. Je vais manger 60 grammes de sucre. 60 grammes de sucre, tu sais, ça fait combien de morceaux de sucre? Ça fait 12 morceaux de sucre.
Ah, c'est beaucoup.
Oui, c'est du bon. Oui, c'est bon, etc. Mais
faut pas abuser. En plus, le problème de la date, je crois que c'est le pas l'assimilation, mais c'est avec qu'est-ce que tu vas manger après.
Eh oui. Exemple, non, mais oui,
tu manges des dates avec des frites et un steak.
Oui.
Et bien en fait,
ça va exploser.
C'est l'association que tu fais.
C'est ça. C'est la quantité. Parce que en soi, les dates, il y a rien de mieux. C'est génial. Les dates, ça va apporter du sucre immédiatement disponible pour l'organisme. Ça veut dire que je fais ma rupture de jeûne. J'ai une date. Il y a des nutriments. Enfin, c'est magnifique. Avec de l'eau, c'est génial. Mais pas neuf. Encore moins 11 ou 13. C'est pas neuf. C'est trop. Et pourquoi? Parce qu'on va retrouver 60 grammes de sucre. Avec ça, je vais manger
Je rigolais, neuf. Mais
il y en a. On rigole, mais il y en a qui vont manger 7, par exemple. Parce que je connais très peu de personnes qui s'arrêtent à 3. T'en connais, toi?
Moi, je passe pas à 3. C'est vrai, je passe à 3.
Mais c'est très rare. Mais les dates, c'est très bon. C'est magnifique. Mais c'est la quantité. Il ne faut pas en abuser.
Bon. Et certaines dates sont pas trafiquées, mais elles sont boostées.
Bah, ça n'existait pas avant.
Elles sont boostées.
Et il faut être très vigilant, parce que maintenant ça existe. Mais on marche sur la tête. Quand on regarde la liste des ingrédients, normalement, date, c'est quoi? Des dates. Cacahuètes. Bah, là, les dates, on va retrouver sirop de glucose. La petite pellicule qui brille. Ils vont ajouter du sucre dedans. Ça veut dire que la date, déjà, qui est un produit naturellement sucré, ils vont ajouter du sucre dedans. Et alors, déjà, sur l'aspect santé, c'est pas bon. De deux, le sirop de glucose, ça pèse, ça a un poids. Ouais. Ce qui veut dire que le poids au kilo, c'est pas 100% date que tu achètes. C'est un pourcentage de date plus le pourcentage de sirop de glucose.
C'est un antioxydant, en fait, pour conserver mieux la date, je pense.
Et en plus, le goût, l'aspect, c'est ce qu'on appelle les qualités organoleptiques. Le goût, l'aspect, texture, etc. Mais c'est déjà une, très mauvais pour la santé. Parce que déjà, c'est quelque chose de sucré, on va encore ajouter du sucre. Et de deux, c'est une arnaque financière.
Le mois de Ramadan, c'est le mois du miel. Alors là, le miel, star des gâteaux.
Ah là là, le miel sous tous ses états. Sauf que le miel, le bon miel, pas le sirop de glucose, comme ils appellent les Anglais.
Modifié,
the golden syrup. Il y en a qui achètent the golden syrup. Je le refais encore.
Vas-y.
The golden.
Vous êtes sûr que c'est les Anglais qui disent ça ou c'est votre voisin
qui fait des rêves. C'est ça la nuit. Il rêve de choses.
Ils utilisent beaucoup ça en pâtisserie. D'ailleurs, il y a une super série sur Netflix. C'est Nadia in the Kitchen, je crois.
Fait trop l'accent, je te jure.
Et elle fait des super pâtisseries.
On doit lui faire une émission en anglais.
Elle utilise the golden syrup. Et bref. Il y en a qui croient que c'est du miel. Le pot, là, transparent, ça a l'aspect du sirop de glucose. Quand on regarde aussi les miels, il faut regarder la liste des ingrédients.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miel dedans, c'est ça que vous voulez
dire? Dans le sirop, non. Dans celui-ci, non. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Ils le vendent quasiment au même prix que le miel.
Soit disant qu'il est plus facile d'usage pour la pâtisserie.
Pour la pâtisserie, pour la pâtisserie, c'est vrai. C'est plus facile à travailler. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas du miel. Il faut prendre conscience que c'est pas du miel. Ça n'a pas les mêmes effets sur la santé que le miel. Et c'est pas le même prix que le miel. Donc il faut pas se faire avoir. Et pareil sur le miel, il y en a des très bons, il y en a des très chers, il y en a des plus accessibles, mais il faut voir aussi l'origine, parce qu'ils sont, on va dire oui voilà quand c'est les normes européennes, mélange de miel Union européenne et hors Union européenne. Et ça vient d'où alors? Il faut que ce soit clair quelle est l'origine. Alors après c'est pas pour dire si c'est des miels, parce qu'il y a de très bons miels de Bulgarie, il y en a de très bons aussi du Pakistan, il y en a très bons du Yémen, il y en a des très bons, mais il faut savoir d'où ça vient. C'est comme les concentrés de tomates. La tomate, on ne sait pas d'où elle
vient. Votre conseil sur le miel?
Déjà, choisir un miel qui est 100% miel. Déjà, ça, la première des choses, on regarde les ingrédients. On regarde aussi, si possible, on peut prendre du bio, ça peut être intéressant. Et après, tout simplement, de demander aussi l'avis à des vrais artisans. Il y a de très bons, et on le retrouve pas en supermarché, le miel du Yémen, de jujubier, c'est excellent. Après, c'est pas pour la pâtisserie. Pour la pâtisserie, on peut prendre celui de lune de miel, parce qu'on va pas prendre les bienfaits du miel. Mais si on veut le déguster, si on veut prendre une cuillère de miel dans une eau un peu chaude, pas trop, parce que sinon ça désactive les bienfaits du miel, vaut mieux acheter un miel cher, mais de bonne qualité.
Alors, autre star du mois de Ramadan, la feuille de brique. Et la brique en général, je vous ai envoyé enquêter sur les briques. Walid ?
La feuille de brique n'est pas si mauvaise que ça. En soi, la feuille de brique, elle n'est pas mauvaise. C'est de la farine de blé. Après, il faut faire attention, en regardant encore une fois la liste des ingrédients, est-ce qu'il y a des additifs, etc. Mais la feuille de brique, c'est pas mauvais en soi. Ce qui va être mauvais, c'est la qualité de la viande hachée qu'on va mettre dedans, la farce qu'on va mettre dedans, mais c'est surtout son mode de cuisson. Son mode de cuisson, si je viens, je fais des fritures, c'est super bon.
Moi,
c'est
la base.
Bah oui, c'est super bon, c'est super bon.
On va être sérieux, Walid, 5 minutes.
C'est super bon.
Les briques, c'est frit.
C'est super bon, c'est frit. Ça veut dire que ma farce, c'est comme si je mettais une éponge dans un bac d'eau. Elle va se gorger de l'eau. Et bien là, c'est exactement la même chose avec la brique. Elle va se gorger d'huile, ce qui fait qu'une brique en soi n'est pas mauvaise. La feuille de brique, la brique, c'est pas mauvais en soi. C'est son mode de cuisson. On va retrouver énormément d'huile dedans. Et un truc tout bête, on pèse, avant de la cuisson, on pèse sa brique, on la met, on fait frire, et on la repèse après derrière. On va gagner facile 50 voire 60 grammes. 50 voire 60 grammes, mais ça vient d'où ? De l'huile. 50 fois 60 grammes, il y a 9 calories pour 10 grammes d'huile. On se retrouve avec 60 grammes de lipides. C'est énorme. C'est énorme, 60 grammes de lipides. On est quasiment à 500 calories. Juste de l'huile apportée par la brique. On est quasiment à 1000 calories la brique. J'en mange deux, ça fait 2000.
Bon, Karim, vous êtes dans quel team là pour les briques ?
Moi, je fais mes briques au four.
Oh, c'est old school ça.
C'est pas bon.
Non, vous êtes sérieux ?
Ouais, je parle sérieux.
Au four.
Au four.
Non, là, vous nous taquinez là.
Non, je parle sérieux.
C'est avant ça.
Donc, Karim, les jumeaux, fait les briques au four. C'est des fois dans la vie, tu crois avoir tout entendu, t'as rien entendu.
En fait, comment dire ça ? En friture, c'est trop. C'est trop. Moi, j'aime.
Non, mais en fait, il y a un.
Moi, je supporte pas la friture.
On taquine un peu. Il y a une nouvelle. Il y a un nouveau. C'est pas vraiment nouveau qui est sorti. C'est ce qu'on appelle the air fryer. En gros, c'est une friteuse, mais sans huile.
Et la Tefal, là. On fait les frites avec à la maison.
Non, c'est différent. Parce qu'en fait, t'as deux choses. T'as soit la friteuse avec laquelle tu mets une cuillère à soupe d'huile. Mais ça, c'est mauvais, apparemment. Okay, c'est très mauvais parce que l'huile, etc. Mais là, c'est une Enfin, c'est même pas une friteuse.
J'ai de mettre de l'huile dans le truc Tefal.
Ah, c'est peut-être alors une. De hair fryer. Parce que c'est de l'air pulsé.
Pourquoi au four, c'est pas bon ?
Parce que. C'est très bon. C'est très bon.
Non, c'est sec.
C'est très bon pour la santé. Non, c'est très bon pour la santé, mais les qualités organoleptiques laissent à désirer. C'est un peu sec. Par contre, avec le air fryer, c'est un truc. Où ça préserve davantage et le fait de mettre un petit peu d'huile d'olive, tu vas vraiment retrouver cet aspect-là. Mais non, c'est très bien le four. Non, c'est très très bien. Et je le taquine un peu avec le
air fryer.
C'est génial parce que c'est plus rapide, il n'y a pas d'odeur la cuisson est plus homogène et il y a un meilleur rendu. Mais c'est génial l'huile au four, c'est génial.
La prochaine, je vais faire des briques sous vide. Cuit à l'eau.
Et le pire, c'est qu'il va le faire et que ça va pas être bon. Mais quand même, il va le faire.
Bien sûr que ça va pas être bon.
On rigole, mais c'est une très bonne technique, ça.
On va les tester sur Benzema.
Je parlais pas de la cuisson à l'eau. C'est pas une très bonne. Enfin, la technique, au four, c'est très bien.
L'eau sous vide, c'est incroyable. Pas pour les briques.
Ah ouais, non, pour les autres,
c'est incroyable.
Les briques, si la personne qui nous écoute, my friend, si tu veux manger des briques tous les jours, fais-les au four ou bien à l'air fryer.
Il a dit au four pour me faire plaisir.
Non, parce que moi aussi, avant, en 98, je faisais au four. Mais c'est très bien. Mais mange pas des briques tous les jours pleines d'huile. C'est mauvais pour ta santé.
On prépare le mois de Ramadan sur Beurre FM. Merci Karim. Boucherie des Jumeaux, au Lila, pendant tout le Ramadan. Walid, vous serez avec nous, vous nous accompagnerez, vous réécouterez l'émission en podcast sur Beurre FM. Et vous verrez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.